Alors, on est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10. Vous savez qu'on fait une étude suivie de ce livre dans 1 Corinthiens, selon un principe qu'on appelle expository preaching, ou prédication expositive ou textuelle, c'est-à-dire qu'on prend un texte et puis on le déroule. Comme ça, ça nous permet d'avoir vraiment le développement de la pensée de Dieu. Et deuxième atout, c'est que ça nous permet d'éviter certains textes que parfois on survole ou on met bien de côté parce qu'ils nous... Parfois, on ne nous parle peut-être pas beaucoup, par ce que les époques ont changé, peut-être. Mais c'est un tort. Donc, on va s'attarder ce matin dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 13 à 33. Et je vais prier avant de commencer. Seigneur, ta parole est vivante et ta parole est ta révélation. Elle est complète, elle est suffisante pour nous aujourd'hui. Et nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour reprendre, exhorter, Seigneur. Et nous avons besoin de lire, d'étudier, de méditer, de comprendre toute ta parole. Alors ce matin, nous allons voir un texte. Te demandons, Seigneur, de nous l'éclairer toi-même, de nous le rendre clair, Seigneur, pour que nous puissions bien comprendre quelle est ta volonté pour nous. Nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 13 à 33. Ça commence par les derniers versets qu'on avait vus dimanche dernier. Aucune tentation ou aucune épreuve, selon la traduction, vu que le mot grec veut dire les deux, aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation... Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des gens intelligents, des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ? Ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voulons-nous provoquer que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci était offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant... non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Alors, pourquoi je dis expository preaching, l'avantage de cette méthode, c'est que on évite de contourner certains textes. Et les viandes sacrifiées aux idoles, aujourd'hui, On a peu d'occasions, d'opportunités de se retrouver face à un plat de viande mangée, de viande sacrifiée aux idoles. Donc ce genre de... Parfois, ce passage-là, on dit, bon, on garde pour plus tard, ou c'est peut-être changement d'époque, etc. Eh bien, on va s'y arrêter ce matin, et donc on va essayer de le découper, bien voir ce que la Bible veut dire pour nous aussi aujourd'hui. Si ces textes-là sont dans la Bible, on l'a vu l'autre fois, c'est que tous ces exemples sont donnés pour qu'on n'ait pas de mauvais sentiments dans nos cœurs. Donc c'est aussi qu'il y a des leçons pour nous. On a commencé notre lecture par le verset, c'était « C'est pourquoi, bien-aimé, fuyez l'idolâtrie ». Donc c'est bien ce dont il est question ici, à travers les viandes sacrifiées aux idoles, on parle d'idolâtrie. Toutes les idées présentées par Paul vont toucher ce point-là. Et donc il prend l'exemple des viandes sacrifiées. Alors ce qui est intéressant dans ce passage, on va le découper, c'est que premièrement, il y a trois types de publics qui sont concernés ici. Est-ce que vous les avez vus ? Probablement, c'est vers la fin. On va regarder, c'est le verset... Voilà, 32, Dominique. Il y a les Grecs. Alors, selon les traductions, là, en 79, c'est en second 21, il y a les non-juifs, les juifs et l'Église de Dieu. Voilà, les Grecs, c'est ceux qui ne sont ni juifs, ni chrétiens. Donc, tout d'abord, il y a trois types de publics qui sont concernés ici. Juifs, non-juifs et chrétiens. Alors, c'est une façon que c'est de menter l'humanité. Hein. Vous pouvez dire l'humanité, il y a des juifs, des non-juifs, des chrétiens. C'est aussi la pensée, pensée de l'apôtre. Pour nous, on dit, dans le monde, il y a quoi ? Il y a des Européens, des Asiatiques, des Africains, des Américains. Et puis après, on segmente encore un peu plus, on dit, il y a des Français, des Italiens, des Malgaches, des Allemands, des habitants de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment on dit, là, des Ivoiriens, voilà, des Ivoiriens. Pour la Bible, dans cet exemple, il y a trois types de publics. Il y a ceux qui étaient juifs, déjà, qui avaient été appelés au départ. Il y a ceux qui sont chrétiens, maintenant. Et puis, il y a ceux qui ne sont toujours pas partis du peuple de Dieu, donc qui sont non-chrétiens. Et c'est ces trois types de personnes sur lesquelles Paul va s'appuyer pour développer la réponse à la question qui était posée par les Corinthiens, donc qui concernait ces viandes mangées aux idoles. Donc, premièrement, trois types de publics. Ensuite, il y a trois types de sacrifices et trois types de communion. Regardez, d'abord, Paul va commencer par le premier groupe, les chrétiens. Et on va développer, regardez, verset par verset. Donc, versets 16 à 17. Paul, il commence avec les chrétiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous participons tous un même pain. Alors l'apôtre ici, il prend l'exemple de la scène, il dit voilà, pour les chrétiens, effectivement, il y a des sacrifices. Le sacrifice, nous, c'est une figuration, une représentation. Nous avons, les chrétiens, ont la scène qui préfigure le sacrifice de Christ sur la croix. Donc, c'est un peu l'équivalent du repas des païens devant leurs idoles. Il prend un peu la même image, il leur dit voilà, nous aussi, chrétiens, on a aussi un repas symbolique que l'on donne à notre Dieu. Mais ici, ce sont des symboles, bien sûr. Nous, on ne mange pas au propre le corps de Christ. Hein. Vous savez que dans l'Église catholique, on pense que l'hostie, le vin, deviennent vraiment le corps de Christ et le sang de Christ. Ce n'est pas du tout notre croyance. Nous considérons que c'est un symbole, un souvenir du corps donné par Christ sur la croix, de son sang qui a coulé pour nos péchés. Mais ce n'est pas du tout le corps ni le vrai sang de Christ. Hein. On ne devient pas cannibale quand on prend la scène. Hein. Je vous rassure, hein, si vous aviez un problème là-dessus, rassurez-vous, c'est un symbole. On n'est pas cannibale. Effectivement, donc les chrétiens ont un sacrifice pour leur Dieu. Mais quel Dieu, mes amis ? Quel Dieu ? Regardez ce que Paul avait dit au chapitre 8, versets 4 à 6. Si les Grecs ou les non-chrétiens ont des idoles, voici le Dieu, nous, que nous honorons. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons, Paul dit, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, hein, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est vrai qu'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, donc, et plusieurs seigneurs. Hein. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alors, c'est vrai qu'on mange des aliments dans un but spirituel, nous, en tant que chrétiens, mais c'est pour honorer qui ? Le Dieu véritable, le seul Dieu qui existe, Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et le seul Seigneur qui existe, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc les chrétiens, ils ne sont pas idolâtres. Attention, les non-chrétiens, vous êtes idolâtres. Les chrétiens ne sont pas idolâtres, ils honorent le vrai Dieu. Voilà, avec ce symbole. Et on voit ici le sentiment de communion, donc le sacrifice, c'est le sacrifice de Christ qui est rappelé à travers la scène, et donc il y a une communion. La coupe que nous partageons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous partageons n'est-elle pas la communion au corps de Christ ? Donc, un peuple, les chrétiens, un type de sacrifice, celui de Christ sur la croix, que nous rappelons par la scène, et la communion, c'est tous ensemble, et nous sommes en communion avec le Seigneur. Avez-vous reconnu le Seigneur comme votre sauveur ? Avez-vous reconnu ce Seigneur qui est mort sur la croix pour les péchés du monde ? Il est mort pour vos péchés aussi ? Prenez-vous la scène ? Êtes-vous en communion avec le sang de Christ ? Attention, parce que quand le Seigneur va revenir, c'est ce que dit la Bible, il y aura un retour du Seigneur, il va prendre les siens, et ce sera trop tard. Il faudra avoir fait le choix avant. L'avez-vous reconnu comme votre Seigneur et Sauveur ? Regardez, on va lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Voici ce que le Seigneur peut faire. Il parle toujours aux Corinthiens, Paul. Hein. C'est là ce que vous étiez. Il parle, vous étiez idolâtres, voleurs, calomniateurs, etc. Vous viviez dans la débauche. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je crois que c'est Pierrette qui a prié comme ça tout à l'heure. Quand Dieu entre dans votre vie, si vous lui confiez votre vie, si vous reconnaissez vos péchés, vous acceptez son sacrifice sur la croix, alors vous êtes sanctifiés, sanctifiés et justifiés. Vous avez accès ensuite au Père de toute éternité. Voilà la première étape à faire si vous n'êtes pas encore sauvé ce matin. Donc le premier peuple, les chrétiens, un sacrifice, celui de Christ sur la croix, et une communion, nous sommes en communion avec le sang et le corps du Seigneur. Deuxième groupe qu'on avait vu, c'était les juifs. Regardez, c'est le verset suivant, verset 18 dans 1 Corinthiens 10. Là, Paul, il a parlé des chrétiens, maintenant il parle des juifs. Il dit, voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Vous vous rappelez, il y a deux semaines, on avait vu que Paul avait pris l'exemple des juifs dans le désert pour bien expliquer le parcours. Il reprend à présent l'exemple, mais ce coup-ci, il va citer bien leur pratique. Hein. Eux aussi, les juifs, si vous êtes familier avec l'histoire biblique, vous savez que les juifs, ils sacrifiaient des animaux, il y avait des offrandes dans le temple, des sacrifices d'animaux, qui étaient ensuite consommés en totalité ou en partie. Et donc, Paul reprend leur exemple également, parce que les juifs aussi, ils sacrifiaient des animaux pour une divinité. Et en l'occurrence, c'était à l'Éternel aussi que nous avons annoncé tout à l'heure. Eux non plus, ces juifs-là, ils n'étaient pas en communion avec des démons, hein. Ils étaient bien en communion avec Dieu lui-même, avec l'Éternel, par l'intermédiaire de l'autel. Hein. Si tu veux, voilà, on est là. Ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Alors, ces sacrifices-là, est-ce qu'ils existent encore ? Non. Depuis la destruction du temple en 70, les sacrifices se sont arrêtés. Voilà. Israël attend la restauration pour rebâtir le temple, pour refaire les sacrifices, mais pour l'instant, tout ceci s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté ? Parce qu'il n'y a plus besoin. On vient de le dire, Christ est mort sur la croix pour nos péchés une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin pour Israël de faire des sacrifices. C'est une préfiguration du sacrifice de l'agneau qui est aujourd'hui inutile. Donc, il n'y a plus besoin. C'est ce que tu as dit, Léo, tout à l'heure en Ésaïe 1. Tu as rappelé justement, peuple de Sodome et de Gomorre, je ne peux plus de vos sacrifices, j'ai son horreur pour moi, je n'en peux plus. Donc le Seigneur a envoyé Jésus sur la croix pour que ce soit définitif. Donc, terminé aussi pour les Juifs, normalement ils n'ont plus besoin des sacrifices. Mais à l'époque de la rédaction de Paul, c'était toujours en place. Donc, il y a premier peuple les chrétiens, deuxième peuple les Juifs qui sacrifient des animaux et ils sont en communion avec l'autel, donc avec l'Éternel. Troisième groupe, les non-juifs, verset suivant, 19 à 22. Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ? Ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Pour question de la viande sacrifiée aux idoles. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc c'est là que le problème intervient. Les chrétiens, ça va, sacrifice homologué. Les juifs, ça allait encore parce que c'était Dieu qui avait instauré, c'était en tant que la bonne nouvelle se répande et Dieu permettait encore pendant quelques années jusqu'en 70 ces sacrifices. Et puis ensuite, le problème arrive avec les non-juifs, voilà, les non-chrétiens, les païens, qui procèdent aussi à des sacrifices d'animaux, mais à qui sont consacrés ces sacrifices-là ? À des démons, voilà. Trois types de personnes, trois types de sacrifices, trois types de communion. Et cette fois-ci, c'est avec les démons. Alors là, on a un vrai souci, parce qu'effectivement, ce que ces gens pensaient faire, c'était pas du tout pour honorer le Seigneur. Donc, Paul ouvre les yeux aux premiers chrétiens en disant « Attention, chrétiens, attention, vous, les juifs, encore, voici ce qu'il faut faire, et surtout, voici ce qu'il ne faut pas faire, et les chrétiens, attention, faites preuve de discernement, parce que à Corinthe, les amis, il y avait beaucoup de temples idolâtres, énormément. Et il y avait donc aussi trois occasions de manger des animaux sacrifiés. Trois peuples, trois types de sacrifices, trois types de communion, et trois façons, c'est ce que Paul dit là, trois opportunités de consommer des viandes sacrifiées aux idoles. À Corinthe, dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de temples idolâtres. Il y avait notamment ce temple de l'amour, où il y avait plusieurs milliers de prostituées sacrées, on en avait déjà parlé. Et en Grèce, à cette époque-là, qu'on soit à Corinthe, à Athènes ou autre, il y avait des temples partout. Vous vous rappelez de cet épisode quand Paul il se promène, il arrive à Athènes et puis il voit des temples avec des hôtels partout. Il y en a même un, c'est marqué à un dieu inconnu. À tel point qu'ils avaient peur d'en oublier un. Ils avaient dit, on ne sait jamais, on va quand même en mettre un dieu inconnu. Si des fois il se fâche, on dira, celui-ci. Donc Paul, il va s'en servir, il va dire, quand il va parler à l'aéropage, il va prendre la parole, il dit, chers Corinthiens, je vois que vous êtes très spirituels à tous égards, parce que, vous avez beaucoup de divinités chez vous, il y a beaucoup de temples. J'ai même vu un dieu inconnu, c'est celui-ci que je suis venu vous prêcher. Voilà. Acte 17, 22, 23, si vous voulez relire. Donc il y avait des temples païens à tous les coins de rue, les amis. Mais ces temples, c'était aussi, en fait, des véritables boucheries charcuteries, en fait. On tuait tout le temps des animaux, et on consommait la viande. Voilà. Et ensuite, cette viande, elle était partagée dans le temple lors de repas, et tout ce qui n'était pas consommé, c'était revendu sur le marché. Donc, les chrétiens qui arrivaient faire leurs courses, avec leur petit cabas, ils se retrouvaient avec des étalages de viande, et parfois, c'était de la viande qui était sacrifiée, quoi. Et à l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas autant de choix qu'aujourd'hui, et que si on voulait de la viande, aujourd'hui, il n'y avait peut-être que ça, quoi. Donc, cas de conscience, Paul... Petite lettre à Paul, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux viandes sacrifiées ? Donc Paul, il est en train de répondre. Ces chrétiens se retrouvaient avec de la viande devant eux, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on se retrouverait dans un rayon, ça vous arrive peut-être, vous faites vos courses alors. Il y a la viande, puis il y a halal, kasher. Ah, qu'est-ce que je fais ? Je peux pas. Voilà. Bon, à l'époque, c'était vraisemblablement dans des proportions bien plus importantes. Les rayons halal et kasher, ils sont quand même assez petits chez nous, mais bon, selon l'endroit où vous allez. Peut-être qu'à l'époque, on peut imaginer que sur les marchés, il y avait beaucoup plus de viande sacrifiée aux idoles. Alors, trois types de personnes, trois types de sacrifices, trois types de communion, et on va voir les trois types d'occasions de consommer des viandes sacrifiées aux idoles. Tout d'abord, ce sont les versets 20 à 22, là on est dessus, celles qui étaient sacrifiées et consommées dans les temples. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et il y avait un autre passage dans 1 Corinthiens 8, versets 8 à 10, où Paul en parle également. Il avait dit un petit peu plus tôt, on en avait parlé, « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Donc si tu veux revenir au verset précédent, si quelqu'un te voit assis à table dans un temple d'idole, dans ces temples, il y avait des repas, des fraternels, comme nous on peut en faire aussi, il y avait des repas où ils partageaient les viandes sacrifiées aux idoles. Et les chrétiens, on pouvait leur dire, viens, tu as toujours été avec nous, tu es chrétien, maintenant tu vas à l'église. Ben avant, tu venais avec nous quand même. Viens manger avec nous. Donc, premier cas de conscience des chrétiens, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? C'est peut-être aussi un témoignage que je peux rendre, etc. Donc, il se posait la question. Et Paul dit, si quelqu'un te voit assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, est-ce qu'elle ne va pas le faire manger des viandes? Personne qui est faible dans la foi ou qui voit dirait, si des chrétiens mangent des viandes sacrifiées aux idoles, ça veut dire qu'il faut continuer à sacrifier aux idoles, donc on va continuer à manger. Donc Paul dit, attention, ici il faut être prudent. Donc Paul recommande une chose, il dit, n'allez pas là-bas, n'allez pas vous asseoir dans les temples d'idoles, ne participez plus à ces repas fraternels, à ces agapés, c'est plus votre place à vous, parce que c'est pas vous, vous en mangez ou pas, ça change rien. Opération nulle et non avenue, opération blanche, comme on dit en comptabilité, rien. Mais c'est pour les autres. Vous pouvez les faire chuter. Et puis Paul avait dit aussi un petit peu plus haut, vous n'avez rien à faire là parce que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous n'avez rien à faire à partager la scène et en même temps à aller dans ces temples pour partager cela. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc n'allez pas dans ces temples. Les chrétiens sont libres, c'est vrai, ils ont une certaine liberté, mais elle a ses limites. Regardez, 1 Corinthiens 10, versets 23 et 24, c'est les versets suivants de notre lecture ce matin. Donc Paul leur dit, voilà, ces temples-là, ces agapés idolâtres, n'y allez pas. Tout est permis, c'est vrai, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et on a vu que dans 1 Corinthiens 8, il disait, vas-y pas parce que tu peux faire chuter un autre. Donc cherche le bien d'autrui, c'est mieux que tu restes à la maison. Donc les chrétiens ne doivent pas faire de leur liberté un moyen de continuer à suivre de mauvaises pratiques ou de devenir une pierre d'achoppement pour d'autres. Première occasion donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, vous étiez invité dans un temple. Deuxième chose, c'est les versets suivants, 25 et 26. La deuxième occasion, c'était la viande sur le marché. Vous allez faire vos courses le samedi matin, vous allez acheter de la viande purée, il n'y a que de la viande sacrifiée aux idoles. J'en mange pas. Paul répond, dit, voilà, vous mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Allez-y, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Il l'avait dit plus haut, hein, vous en mangez ou vous n'en mangez pas, ça ne change rien. Donc quand vous allez sur le marché, ma foi les amis, prenez de tout ce qu'il y a si ça vous fait plaisir et vous enquérez de rien du tout. Mangez tout ce que la terre renferme est au Seigneur, c'est à vous. C'est de la viande. Voilà, il n'y a pas de complication derrière tout ça. Allez-y. Ça, c'était la deuxième occasion de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Celle-ci, la réponse de Paul est très claire. Si vous posez la question quand vous allez dans le rayon et vous voyez halal kasher, c'est de la viande, vous ne posez pas la question. Tout ce que la terre renferme est au Seigneur. Vous en mangez ou vous n'en mangez pas, ça ne changera rien pour vous. Donc, parce que vous ne le mangez pas en disant c'est kasher ou c'est halal. Vous le mangez parce que c'est de la viande, c'est tout. Troisième occasion, celle consommée dans les maisons suite à une invitation. Ça, c'est le verset donc suivant, 27 à 30. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, ah voilà, alors vous êtes chrétien aujourd'hui, mais il y a un non-chrétien qui vous dit, viens manger à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, vous mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Allez-y. Mais si quelqu'un vous dit, première situation, c'est, vous y allez, vous mangez tranquillement, vous ne posez pas la question. Mais si la personne vous dit, celle qui vous invite, ou quelqu'un qui est à table vous dit, ceci était offert en sacrifice, alors là, Paul dit, alors là, n'en mangez pas. N'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience à vous, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Moi, je peux manger de ce que je veux, hein, pas de problème. Mais, verset suivant, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Donc j'ai prié pour mon repas, tout va bien. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit... Voilà, on va s'arrêter juste là. Ici, la position est simple. Si on vous invite, vous mangez, pas de problème. Par contre, si on vous dit, attention, c'est de la viande sacrifiée aux idoles, alors là, Paul dit, n'en mangez pas. C'est pas à cause de vous. Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à cause d'un aliment pour lequel j'ai remercié Dieu? C'est pas à cause de vous, c'est à cause de l'autre. N'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. En effet, si vous êtes invité, vous étiez à cette époque-là, vous étiez chrétien, et on vous dit c'est de la viande sacrifiée aux idoles, on se retrouve dans la situation dans le temple où personne pourrait se dire « Ah donc, les chrétiens aussi mangent les viandes, donc il faut continuer de sacrifier aux idoles, c'est quelque chose qui est approuvé. » Vous êtes dans semaine 4 figure aujourd'hui, on vous invite chez quelqu'un. Regardez votre liberté. On vous invite à manger, tout va bien. Par contre, si quelqu'un vous sort de la marijuana, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refuser, évidemment. Vous n'êtes plus dans ce truc, vous étiez peut-être autrefois. Moi, je ne cache pas que j'en ai fumé de la marijuana. Mais oui, comme beaucoup de ma génération, on a essayé. Ok, mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Donc autrefois, j'étais avec les non-chrétiens, je faisais les pratiques des non-chrétiens. Maintenant, quand on est chrétien, si on est invité et qu'on dit « Ah, t'étais avec nous quand même !» Tu as fumé un petit pétard. Ben non, qu'est-ce qu'on fait? La viande sacrifiée aux idoles? Non, ouais, c'est plus pour nous. Terminé. Parce que sinon, quel témoignage on va rendre? On continue à faire comme avant? Il n'y a rien qui... Le Seigneur ne nous a pas transformés, on est toujours le même qu'avant? Non, pas du tout. Donc, nous, en toute conscience, ça ne nous pose pas de problème, mais pour les autres. Alors, je ne dis pas qu'il faut fumer de la marijuana, n'interprétez pas ce que j'ai dit. Hein. Ces choses-là sont bien inutiles et on va le développer un petit peu après. Trois types de public, juifs, non-juifs, grecs. Trois types de sacrifices, trois types de communion, trois occasions de consommer de la viande sacrifiée aux idoles. Et maintenant, on va voir les limites à notre liberté. Quelles sont les limites, justement? Eh bien, c'est versets 31, 32 et 33 qui terminent ce passage. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Qu'est-ce qu'il avait dit Paul? C'était quoi les limites du chrétien? Tout est permis. Alors je peux fumer de la marijuana? Alors je peux faire plein de trucs? Je peux aller dans les temples païens, etc.? 1 Corinthiens 10, 23, on l'a lu ce matin. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, il dirait également à notre moment, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais je ne me laisserai réduire en esclavage par rien du tout. Voilà. Donc, est-ce que fumer de la marijuana, c'est utile? Non, donc ça ne sert à rien. Est-ce que fumer de la marijuana, ça édifie? Non, donc ça ne sert à rien. Est-ce que ça a servi? Oui, donc, ouf. C'est comme la cigarette, c'est comme les alcools forts, etc. Tout ça, on s'en tient à l'écart. Tout est permis, ouais, mais tout ça, ça ne sert à rien du tout, quoi. Donc, l'apôtre, il pose bien le cadre. Voilà. Quand vous êtes dans un cas de conscience, donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? La Bible n'en parle pas. Il n'y a pas ce truc dans la Bible, là, les jeux vidéo. Il n'y a pas les jeux vidéo. Les discothèques, il n'y a pas les discothèques. Je fais quoi? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vous édifie? Est-ce que ça vous rend esclave? Si vous répondez oui à au moins de ces questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous faites demi-tour et vous passez votre chemin. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais nous devons nous laisser réduire en esclavage par rien du tout. Et on pourrait ajouter, tout est permis, mais je ne veux être une occasion de chute pour personne. C'est aussi une des limites fixées par Paul. Il dit, attention, il y a peut-être des choses qui pour vous seraient peut-être, bon, vous autoriseriez peut-être à le faire, mais ça peut être une occasion de chute pour les autres. Ce n'est pas à cause de votre conscience, c'est à cause des autres qu'il ne faut pas le faire. On doit toujours rechercher l'intérêt des autres avant le nôtre, afin qu'ils soient sauvés aussi. Sinon, ça s'appelle de l'égoïsme. Voilà, on fait ce qu'on veut. Je vais vous donner l'exemple de Spurgeon. Vous connaissez Spurgeon? Le grand prédicateur britannique, anglais. Saviez-vous que c'était un grand fumeur de cigares? Ah, ça nous gêne ça, parce que mince, alors Spurgeon, qui était pourtant un bon prédicateur de l'évangile, il aimait bien fumer le cigare, il en fumait beaucoup. Alors il faut dire qu'à l'époque, on ne connaissait pas tellement les ravages du tabac comme aujourd'hui. Hein. Ce n'était pas très connu, donc on ne savait pas trop les conséquences. Mais bon, ça devait troubler la conscience quand même de certains. Et Spurgeon disait, quand il fume un cigare, je le fume à la gloire de Dieu. Ah. Alors honnêtement, je pense que s'il n'avait pas fumé de cigare, la gloire de Dieu aurait été totalement la même. Je pense que ça n'avait aucun impact sur la gloire de Dieu, honnêtement. Mais les gens ont critiqué Spurgeon. Certains lui disaient, mais tu fumes et tout ça, c'est pas bon. Et Spurgeon disait, je m'arrêterai si je suis le jour où je serai une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Et effectivement, le problème s'est présenté. Beaucoup de jeunes ont commencé à fumer la cigarette, des jeunes de l'église, en disant à leurs parents, mais Spurgeon, il fait la même chose. Le prédicateur, il fume. On peut fumer. Et quand Spurgeon a su ça, il a arrêté. Il a arrêté de fumer le cigare, il a dit qu'il arrêtait. Donc il a bien mis en pratique ce que Paul disait. Il sentait sa liberté dans un cigare, bon, chose que je n'approuve pas parce qu'on devient esclave de ces choses. Donc moi, personnellement, je suis contre. Mais dans son contexte de l'époque, effectivement, le contexte était un peu différent, les ravages étaient moins connus aussi. Mais malgré tout, Spurgeon a dit, d'accord, je suis une occasion de chute pour les jeunes, donc je suis une occasion de chute pour la progression de l'évangile, donc je préfère arrêter une pratique qui est la mienne, et pour moi, ne me pose pas d'état d'âme, mais je le fais pour les autres. Donc il a bien mis en pratique ce que Paul et la Bible disaient là. Donc quelles sont les limites à notre liberté? Eh bien, il y a quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Vous savez d'où s'est tirée cette maxime? Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, 1789. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui a été rédigée en France. Hein. Ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Et c'est un petit peu ça. Je peux faire ce que je veux, mais alors nous, on va l'extrapoler, voilà, en disant, si ça gêne la progression vers la foi ou vers la sanctification d'autres personnes, voilà, mon cadre s'arrête. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément l'occasion de voir beaucoup de viande sacrifiée aux idoles devant nous, même si on a dit que devant nos étalages de supermarché, on peut avoir des comptes conscients. J'ai pris l'exemple, vous êtes invité chez quelqu'un, on vous propose des substances, etc., que vous aviez peut-être partagé autrefois. On va essayer de parler à tout le monde, de prendre un exemple concret. Un verre de vin, du vin. Est-ce que vous buvez du vin? Qui ne boit pas de vin ici? Par motif de conscience. Ok, d'accord. Vous auriez dû venir jeudi, certains étaient là, on en a parlé. Alors effectivement, il y a des chrétiens qui disent, alors moi personnellement, je fais partie de ceux qui... Alors je ne dis pas que je ne bois pas de vin, j'en bois peu, j'en bois 2 verres par an à peu près, c'est pas que j'ai un problème doctrinal avec ça, c'est que j'aime pas forcément le vin ni l'alcool, j'en bois jamais. J'ai eu quelqu'un dans ma famille de très proche qui a eu vraiment un problème d'alcoolisme, qui en est mort, donc ça a été un impact fort dans ma vie. Voilà. Mais je reconnais que doctrinalement, pas de souci avec le vin, Jésus a bu du vin. Donc si Jésus a bu du vin, qui suis-je moi pour dire je suis plus saint que Jésus, j'en bois pas? Jésus en a bu. Jésus a multiplié du vin à Cana, il a donné le meilleur vin à ceux qui faisaient leurs noces. C'est le signe de la nouvelle alliance, il y en a dans la Seine. Il y en a du vin nouveau dans le ciel et on va en boire avec Jésus, donc j'ai pas de problème avec du vin. Si je suis à table avec vous, vous m'invitez, vous nous invitez, et qu'il y a du vin, franchement, vous gênez pas, même d'en boire devant moi, j'en bois pas. Parce que j'aime pas trop ça et que ça m'endort, mais faites pas de problème avec moi. Hein. Donc le vin en soi n'est pas mauvais, Jésus en a bu, et en plus il l'a pris tellement en exemple dans son alliance que bon, franchement, je vois pas de problème doctrinal avec ça. Le problème, c'est pas le vin en lui-même, le problème c'est quoi? C'est l'abus, c'est pas l'utilisation, c'est l'abus, c'est l'alcool qu'il y a dedans qui... Alors moi, au bout d'un verre, c'est pas la peine, je suis déjà en train de dormir, il y en a, il faut un peu plus, mais le problème c'est l'ivresse. Qu'est-ce qui est arrivé à Noé après le déluge? Qu'est-ce qu'il a fait, Noé? Le premier vigneron de l'histoire, a priori. Il s'est fait une vigne, il a bu, il était ivre, et il y a eu le péché qui est revenu après. Les filles de Lot, comment elles ont fait, vous savez, pour avoir une descendance? Elles ont fait boire leur père, elles l'ont enivré. Vous voyez, le problème, c'est pas boire un verre de vin, c'est d'aller jusqu'à l'ivresse. Parce que quand on perd la maîtrise de soi, on a un vrai problème. Là, au niveau doctrinal, nous avons un vrai problème. Ce n'est pas le vin lui-même, c'est effectivement la surconsommation qui mène à l'ivresse. Donc alors, prenons l'exemple du vin, vu que c'est un thème qui en plus en France nous parle beaucoup. On n'a pas les viandes forcément sacrifiées aux idoles, mais par contre on peut vous inviter par rapport au vin, vous pouvez être dans ce cas de conscience-là. Donc il y avait 3-4 figures qui pouvaient être les nôtres aujourd'hui. Tout d'abord, on vous invite. Alors là, les Corinthiens, c'était dans le temple païen. Viens au temple avec nous, manger de la viande. Et bien là, c'est... Viens en discothèque boire un coup avec nous. Viens, t'étais avec nous avant. Le chrétien, il peut faire quoi là? Est-ce qu'il doit aller dans ses temples aujourd'hui, païens? Ben non, il n'a rien à y faire. Paul dit, n'y allez pas. N'allez pas vous mettre à table avec ces gens-là. Vous n'avez rien à faire dans ces endroits-là. Si on vous invite au bar ou en discothèque boire un verre, n'y allez pas, ce sont des lieux de débauche. Il n'y a rien à y faire là-dedans. C'est bon ni pour vos yeux, ni pour vos pensées, ni pour vos cœurs, ni pour vos corps. Comme Paul disait avec les temples païens, n'y allez pas. Presque par motif de... Enfin, c'est par motif de conscience. Vous pouvez presque y aller et puis hop, vous avez votre conscience à vous et vous repartez. Mais vous savez très bien que vous pouvez être une occasion de chute pour vous, pour les autres. Et aussi, les amis, soyons francs, vous pouvez être aussi une occasion de chute pour vous. Donc, restez à l'écart. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. La viande sur les marchés. Vous allez au supermarché, qu'est-ce que disait Paul? Est-ce que vous allez acheter du vin? Vous buvez du vin, ça régulièrement, ça vous arrive. Vous faites un petit verre de vin avec votre repas, vous aimez bien ça. Paul dit quoi quand vous allez au marché? Faites ce que vous voulez. Hein. Tout ce qui est de la terre appartient au Seigneur, c'est à vous, faites-en ce que vous voulez. Avec la limite de l'ivresse, évidemment. Donc, si vous voulez acheter une bouteille de vin pour vous faire un verre de vin pendant votre repas, ma foi, Paul dit, allez-y, tranquillement. Mais en vous fixant toutefois les limites qu'on a vues ce matin, tout m'est permis, mais je ne me laisserai rendre esclave de quoi que ce soit. Donc si vous ne savez pas vous maîtriser, la meilleure chose à faire, effectivement, c'est de ne pas en acheter, de ne pas en consommer, vous serez bien tranquille comme ça. Mais si vous avez la maîtrise totale, vous buvez un verre pendant votre repas et que pour vous c'est très bien, Paul, ici, ce matin, avec les viandes, disait, allez, il n'y a pas de problème, pas de limite. Enfin, pas de limite, si. Pas de limite à votre conscience, voilà, vous avez bien compris que l'ivresse était une limite. Donc, vous êtes invité, fuyez, vous consommez un verre de vin pour vous, allez-y, pas de problème, vous avez rendu grâce pour votre repas, tout est béni. Troisième cas, c'était vous êtes invité chez des non-croyants, à déjeuner ou à dîner. Vous êtes invité, on vous sert de la viande sacrifiée aux idoles, chez quelqu'un. Vous n'êtes pas dans un temple, vous êtes domicile de quelqu'un. Ici, vous êtes invité au domicile de quelqu'un, on vous propose du vin. Alors, Paul disait, qui va vous juger par motif de conscience? Vous êtes en paix avec Dieu, vous avez prié pour votre repas, vous pouvez consommer. Mais ne le faites pas pour les autres. Voilà, ne le faites pas pour les autres, vous pourriez être une occasion de chute. Alors là, encore une fois, c'est une autre occasion qui peut nous être présentée, mais là, ce n'est pas forcément que vous deviez refuser ce verre de vin systématiquement. Le vin, il n'est pas sacrifié aux idoles, là. C'est juste un verre de vin. Donc en fonction des personnes qui sont autour de vous, là, il faut avoir du discernement. Est-ce qu'il y a des personnes jeunes dans la foi ou des personnes que vous pourriez faire chuter? Dans ces cas-là, n'en buvez pas. Si vous n'avez pas la maîtrise de votre propre organisme aussi, par rapport à l'ivresse, n'en buvez pas. Mais si vous êtes dans un autre cas de figure où, ma foi, ça ne gêne personne, vous êtes entre chrétiens, par exemple, ou même avec des non-chrétiens et que personne n'a de problème avec l'alcool et tout le monde va boire raisonnablement un verre avec le fromage, là, Paul disait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Par contre, s'il y a quelqu'un qui est faible dans la foi autour de vous, ne le faites pas. Voilà. C'est quoi le but de Paul qui résume sur les deux derniers versets, versets 31 à 33, c'est le résumé de la pensée de l'apôtre. En synthèse, c'est quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux non-chrétiens, ni aux juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Donc Paul ici, il donne une indication, il dit, voilà, voici les limites. Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, c'est tout pour la gloire de Dieu. Et regardez ce qu'il avait dit aussi dans Romains, chapitre 14, verset 21. Et ça va nous rappeler l'exemple de Spurgeon. Paul disait aux Romains, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc, là, Paul disait, c'est bien de ne pas manger de viande, c'est bien de ne pas boire de vin, c'est l'exemple que j'ai pris ce matin, et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. C'est si tu peux être pour ton frère une occasion de chute. Si c'est pour ta propre conscience à toi, tout ce qui vient de la terre appartient à Dieu, tu as prié pour ça, pour ton repas, c'est béni, tu peux en profiter. Le vin, la viande, tout ça, allez-y. Par contre, tu t'en abstiens si tu es pour un frère une occasion de chute, et c'est ce qu'a fait Spurgeon, il n'avait pas réglé ce problème avec le cigare, mais à un moment, il s'est dit, ah, oui, le problème, il y avait un problème, parce que c'est une occasion de chute pour les autres, donc je m'abstiens. Okay. Alors, en résumé, trois types de personnes, des chrétiens, des non-chrétiens, des juifs, trois types de sacrifices. Pour les chrétiens, c'était quoi? C'était le sacrifice parfait de Christ sur la croix, que nous partageons en rappel par la scène, le pain et le vin. Pour les juifs, c'était les sacrifices d'animaux sur l'autel. Et pour les idolâtres non-chrétiens grecs de l'époque, c'était des viandes sacrifiées aux idoles. Donc il y avait trois types de communion, c'était les chrétiens étant en communion avec Dieu, les juifs étant en communion avec l'autel, et puis les non-croyants étaient en communion avec des démons. Et il y avait aussi donc trois occasions de consommer de la viande sacrifiée aux idoles, c'était vous étiez invité dans un temple, vous en trouviez au marché, ou bien vous étiez invité chez quelqu'un. Et il y avait trois attitudes que Paul recommandait, c'était vous pouvez y aller, mais ne faites pas de votre liberté un obstacle pour les autres. Recherchez le bien des non-chrétiens afin qu'ils soient sauvés et faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, j'aimerais que vous gardiez ça pour aujourd'hui. avec ce dernier verset qu'on relit dans, c'est le verset 31, 1 Corinthiens 10. S'il faut retenir une seule chose en synthèse de tout ce qu'on a dit ce matin, 1 Corinthiens 10, verset 21. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà les amis. Amen. Seigneur, merci, parce qu'effectivement, cet exemple de viande sacrifiée aux idoles, nous sommes en 2019. Bon, nous ne sommes pas confrontés à cela, Seigneur, du moins dans nos pays. Seigneur, peut-être que dans d'autres pays du monde, il y a ce problème, effectivement, des pays, l'Inde peut-être, ou des pays qui sont encore tournés vers beaucoup de divinités. Seigneur, en tout cas, nous avons vu que nous pouvions aussi le traduire dans notre environnement d'aujourd'hui. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Quelles sont les limites, Seigneur? Et tu nous l'as dit ce matin. Nous avons nos propres limites, Seigneur, savoir nos limites à nous, notamment en termes d'ivresse ou voilà, de maîtrise de nous-mêmes. Mais nous avons aussi la limite des autres, Seigneur. Si nous avons cette possibilité d'être une occasion de chute pour d'autres, il faut à ce moment-là s'abstenir, Seigneur. Si nous sommes avec des personnes faibles dans la foi, il est préférable de ne pas faire quelque chose, de ne pas manger de viande, ou de ne pas boire de vin, Seigneur, ou autre chose. Seigneur, en tout cas, tu nous as montré que ta parole était aussi pour nous. L'exemple des Corinthiens est aussi l'exemple pour les chrétiens du 21e siècle. Seigneur, effectivement, il y a trois types de peuples aussi et trois messages. Il y a les Juifs, Seigneur, qui ne t'ont pas encore reconnu comme le Messie. Nous prions pour eux, Seigneur, pour qu'ils te reconnaissent comme ce Messie attendu qui est déjà venu. Nous prions pour les non-Juifs, les Grecs, Seigneur, les non-chrétiens. Nous prions pour qu'eux aussi, Seigneur, ils se détournent des idoles du monde, Seigneur, qu'ils viennent à l'Église et qu'ils te rencontrent, Seigneur, et qu'ils te donnent leur cœur. Nous prions pour les chrétiens. Aide-les dans leurs tentations, Seigneur. Nous avons parlé de la drogue, de l'alcool, des jeux, des discothèques. Il y a tant d'opportunités de chute, Seigneur. Préserve les chrétiens, préserve ton peuple, Seigneur. Mets bien les limites de la liberté qui est la leur dans leur cœur, Seigneur, et dans leur conscience pour qu'ils ne s'éloignent pas de toi, Seigneur. Nous t'en prions dans le nom de Christ. Amen.
Amen.
Je laisse la place à mon frère Léo, ou je conclue.